Bonjour Philippe.
Bonjour François.
Ah, une autre belle journée. Puis aujourd'hui, on parle de découvertes qui sont prometteuses. C'est vraiment des choses renversantes.
Absolument, absolument. Donc, on va y aller avec, comme premier sujet, les personnes, en fait, qui sont touchées par des maladies de dégénérescence de la rétine.
Ah, et là, je lève la main. Oui, voilà.
Bon, parfait. Il y a déjà quelqu'un de concerné.
Oui, ah, voilà, ça.
D'accord. Ben écoute, on va commencer d'abord par définir un peu les choses, c'est-à-dire quand on parle de dégénérescence de la rétine, ben évidemment, la rétine, c'est la membrane qui est au fond de l'œil.
Oui.
Sur cette membrane-là, on retrouve des cellules spécialisées dans l'interception des signaux lumineux pour les acheminer au cerveau. Ces cellules-là, on les appelle les photorécepteurs.
Et il y en a deux types, je pense.
Et voilà, tout à fait, il y a deux types. Donc, rapidement, il y a les cônes, qui sont les cellules qui sont plus, disons, au centre de la rétine, qui vont être impliquées dans la perception des couleurs, une vision plus précise aussi également. Les fins détails, par exemple, c'est
oui.
grâce aux cônes qu'on les voit. Les bâtonnets, ben, sont en périphérie, au pourtour, puis eux autres sont plutôt impliqués dans la vision lorsqu'il fait un peu moins clair, là, une vision un peu plus
de pénombre. C'est une captation de la luminosité. Peut-être des contrastes, mais c'est pas aussi fin.
Hein?
On n'admire pas une œuvre d'art avec les bâtonnets, on l'admire avec les cônes. Voilà. Mais il y a des maladies dégénérescences de la rétine qui fait que petit à petit, toutes ces cellules-là meurent, deviennent inactives, et c'est comme ça que la vue peut se détériorer. La rétinite pigmentaire en étant un exemple, mais il y a d'autres pathologies.
Tout à fait, c'est ça. Fait que la résultante, c'est justement une perte de vision, comme tu l'as bien mentionné. Parmi les stratégies novatrices en ce moment, tenter de guérir un peu ces maladies-là, ben, on pense évidemment aux cellules souches. Parce que les cellules souches ont un super potentiel d'être en laboratoire avec certaines recettes. On peut arriver à les transformer. Ils ont la possibilité de devenir toutes les cellules qu'on veut, mais évidemment, nous, en laboratoire, il faut appliquer des protocoles très particuliers pour se faire. Et on peut produire des photorécepteurs. On est capable, donc, de transformer des cellules pour les rendre
On peut. La cellule souche, ce sont des cellules qu'on retrouve à l'origine dans les embryons humains sont des cellules qui peuvent, parce qu'elles peuvent avoir d'autres origines, et ces cellules-là sont appelées au moment du développement à se spécialiser dans toutes les cellules qui vont composer le corps.
Absolument.
Et donc, on peut demander une cellule. Demander, c'est peut-être pas le bon terme. Enfin, on peut aiguillonner la cellule souche pour devenir une cellule de rétine de l'œil.
Exactement, c'est ça. Par contre, il y a deux ennuis en ce moment avec ça. D'abord, il peut y avoir un rejet. Lorsqu'on veut les implanter, ces cellules-là qu'on a développées en laboratoire puis qu'on veut les donner à un patient, ben des fois, ils sont rejetés. Ou alors, elles ne s'enracinent pas vraiment très bien dans la rétine.
D'accord.
Il faut voir ça comme une plante. Là, on dirait que la plante ne veut pas prendre.
Parce que cette cellule de rétine vient d'une cellule qui n'est pas, elle, d'origine dans le même organisme que la personne qui reçoit la cellule. Alors, il y a comme un manque de reconnaissance.
Oui, c'est exactement. Ça peut être une des causes. Donc, devant ces problèmes-là, ben là, on se dit, ouais, y aurait-tu un moyen de faire, en quelque sorte, entre guillemets, du recyclage? C'est-à-dire trouver un moyen de se servir de cellules qui sont déjà présentes au niveau de la rétine, puis de les amener à contribution pour régler un peu les problèmes liés à la dégénérescence des photorécepteurs. Et à cette grande question, bien évidemment, il y a une réponse. La réponse, c'est oui.
Oui.
Et ça vient d'une recherche, des travaux de recherche par un chercheur de l'Institut de recherche clinique de Montréal.
C'est ici, là. Oui, oui.
Oui, 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 c'est à Montréal. Moi, j'aime bien présenter des trouvailles intéressantes.
Tout à fait.
Loin de chez nous. Donc, M. Michel Caouette, il faut bien le mentionner, donc, et son équipe. Donc, ce qu'ils ont fait essentiellement, c'est qu'on était capable de prendre une cellule, qui est un type de cellule qui est déjà présente dans l'œil, qu'on appelle des cellules gliales, des cellules qui ont un rôle de bienveillance. Ce sont des cellules qui, normalement, vont s'assurer de nourrir les photorécepteurs, de les défendre contre des organismes pathogènes. Ils ont d'autres fonctions.
C'est ces cellules-là, les gliales, qu'on retrouve parfois comme un peu comme étant l'enveloppe des cellules nerveuses aussi.
Oui. Ben, en fait, elles vont produire de la myéline. C'est très bien que tu le mentionnes. Donc, elles vont produire de la myéline qui va permettre d'isoler les neurones.
Un peu comme le caoutchouc autour des fils électriques.
Exactement. C'est justement ce que j'allais dire. Donc, former une espèce de gaine isolante pour éviter que, finalement, les signaux soient perdus ou soient mal transmis.
Et que deux fils se touchent.
Voilà, exactement. Donc, qu'ils ont fait, en gros, c'est qu'ils ont été capables de prendre ces cellules-là, déjà présentes au niveau de l'œil, et de les, en quelque sorte, transformer, les métamorphoser, donner, faire en sorte qu'elles puissent devenir quoi? Ben, devenir des cellules de photorécepteurs. Oh. Qui ne sont pas parfaites.
Ce ne sont pas des, elles ne sont pas devenues des cellules clones exactement. Ce n'est pas un clone de cellules clones.
Pas tout à fait.
Mais elles sont capables de faire une partie du travail.
Exactement. Elles ont de grandes similitudes au niveau de leurs caractéristiques, de sorte que finalement, ben, on peut penser que maintenant qu'on les a transformées ainsi en cellules qui s'apparentent à des cônes, des photorécepteurs cônes, ben, on peut espérer qu'éventuellement, ça pourrait améliorer la vision. On n'en est pas encore tout à fait là. On n'a pas encore été en mesure de bien vérifier est-ce que la vision va parfaitement s'améliorer, mais c'est un grand pas en avant.
Tout à fait. Alors, on peut dire qu'elles ne sont pas oranges comme des véritables cônes. mais voilà, fallait que je le dise. Donc, mais ça fait quand même une approximation du travail. Et puis, ça peut être une avancée importante parce que jusqu'à maintenant, le traitement des maladies dégénératives de la rétine, là, ça avance à petits pas.
C'est ça. Fait qu'il faut voir l'espoir que ça peut générer. Éventuellement, peut-être qu'on pourra voir ce type de thérapie-là un jour chez les humains, où est-ce qu'on va prendre les cellules gliales et les transformer ainsi en cellules cônes.
Ben, là, il faut dire à nos auditeurs, à tout le monde, que M. Philippe Ducharme, vous n'êtes pas n'importe qui quand même. Hein? Vous avez fait un doctorat en biologie et ça portait entre autres sur notre prochain sujet.
Ben, c'est ça. Quand je suis tombé là-dessus, je me dis, tiens, là, une occasion pour moi de revisiter un peu des concepts que j'ai travaillés durant mes études. On va parler ici, en fait, on va commencer par parler de maladies neurodéveloppementales. Qu'est-ce que c'est des maladies neurodéveloppementales? Donc, c'est des maladies qui affectent le développement, hein, développement, neuro pour neurone. Dans ce cas-ci, on va être un peu plus spécifique, on va parler du cerveau. Donc, des maladies qui originent d'une certaine défaillance dans le développement du cerveau. Il y en a plusieurs, là, je peux en nommer l'épilepsie, la dyslexie, un trouble d'apprentissage, certaines maladies de santé mentale comme la schizophrénie. Bref, il y a un très large
spectre de maladies. Oui, d'accord. Qui ont pour origine des déviances au moment du développement du cerveau.
Et voilà, exactement. Que ce soit au stade très précoce, l'embryon, stade fœtal, comme après la naissance, là, tout ça peut se poursuivre, bien sûr. L'idée ici, c'est que quand on regarde ça du côté avant la naissance, bien, on comprend vite que c'est difficile d'étudier le cerveau en développement. Pour des raisons évidentes, hein, le cerveau n'est pas accessible, puis il n'est surtout pas question d'aller faire un prélèvement du cerveau.
Faire une biopsie de cellules cérébrales dans un embryon. Qui est dans l'utérus de la mère, là, ça me semble être pas une trop bonne idée à faire à la maison.
Non, c'est pour des très bonnes raisons, d'ailleurs, qu'on ne le fait pas comme ça.
Voilà.
Par contre, là j'arrive à mon sujet, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a de nouvelles approches qui émergent, comme par exemple la fabrication d'organoïdes. Un nouveau mot aujourd'hui qu'on voit ensemble. Donc,
ça sonne vraiment science-fiction, ça.
Tout à fait. Ah ouais, puis je vous amène là, ça s'en vient. Là. Un organoïde, si on fait ça simple, là, c'est une réplique miniature et beaucoup plus simple d'un organe. Puis on peut le faire pour la peau, par exemple, ou le foie. Et dans le cas qui nous concerne, on va en parler par rapport au cerveau. Et là, ce qui est vraiment flyé, c'est la façon de le faire. Donc,
on crée donc des modèles réduits de cellules cérébrales qui ne sont pas vraiment un cerveau fonctionnel parce qu'elles ne sont pas branchées à tout un système nerveux.
Elles
ne reçoivent pas des inputs de sensations ou ainsi
Absolument.
De suite. Mais il y a quand même la même physiologie puis les mêmes rapports entre elles.
Absolument, c'est ça. Exactement. Puis pour le faire, là, c'est ça qui est vraiment pété.
Ouais.
C'est qu'on prélève des cellules de la peau. On les déprogramme, on les remet à zéro d'une certaine façon, on les ramène à un état de cellule souche. Cellule souche, on parlait de ça juste avant dans le précédent sujet. Donc, avec des recettes en laboratoire, on arrive à faire ça. Puis une fois qu'on les a, ben là, on peut les reprogrammer, encore une fois, avec d'autres recettes en laboratoire.
On les fait reculer au stade de cellule souche pour après ça les mettre dans une autre voie parallèle et au lieu que cette cellule qui, mettons, à l'origine était une cellule de la peau, au lieu que cette cellule-là reparte du stade cellule souche, redevienne une cellule de la peau, mais là, tout d'un coup, on lui demande, non, tu vas devenir cellule cerveau aujourd'hui, là.
C'est à peu près ça. Ouf. C'est une belle manière de le résumer.
C'est vraiment faire reculer, faire régresser d'une certaine façon, ou renverser l'évolution de la cellule, la remettre à son stade primaire, puis après ça, la redémarrer dans une autre... dans une autre voie de développement en parallèle, qui là, ça crée des petits cerveaux.
C'est ça, des mini-cerveaux, comme tu l'as bien dit. Puis avec ça, ben, on peut évidemment étudier un peu le comment ça devient un petit cerveau, comment la cellule devient un neurone qui participe à la fabrication d'un cerveau ou d'un mini-cerveau. Donc, c'est très utile pour comprendre donc les moments où ça peut être défaillé, les moments où justement il y a eu des étapes qui ont été mal complétées par la programmation du neurone.
Oui, parce que si on prend la cellule de la peau d'une personne qui vit déjà avec des troubles neurologiques, dans cette cellule de la peau-là, il y a déjà tout l'ADN qui, en quelque part, a eu une faute ou une mutation qui a créé la situation actuelle de l'individu.
Ben absolument.
Alors, en retournant au stade cellule souche puis en redémarrant vers une cellule cérébrale, on se retrouve avec une copie des cellules cérébrales qui étaient dans l'embryon qui est devenu cette personne.
En quelque sorte, on peut dire. Ouf. C'est sûr que les facteurs génétiques, du moins, peuvent s'y retrouver. Puis bon, il y a quand même l'environnement qui joue beaucoup là-dedans.
Oui.
Ça demeure quand même que c'est une stratégie fort intéressante pour essayer de comprendre le développement de certains organes, comme par exemple ici le cerveau, justement.
Ben, c'est fou, là. Mais ça valait la peine d'en parler. Malheureusement, nous avions un troisième sujet que nous allons laisser sur la glace pour la prochaine fois.
On y reviendra.
On va y revenir, mais déjà aujourd'hui, de savoir qu'on a des pistes pour recréer des cônes, et aider au traitement des maladies dégénératives de la rétine de l'œil, ça, c'est super. Et ce concept d'organoïde, là, on croirait vraiment quelque chose là, je pense à une bande dessinée là, comme Valérian ou quelque chose de ce genre-là. Attention, on est attaqué par les organoïdes, là. Alors, c'est très, très fort. Ben, merci beaucoup, Philippe.
Ça m'a fait plaisir, François.
La science est tellement au-devant de ce qu'on peut imaginer, nous, communs des mortels, ça donne de l'espoir. Hein? Des choses qui étaient folles sont maintenant rendues possibles. Alors, super.
Ben voilà.
À la prochaine.
Ben, grand plaisir, François. Bonne journée.